Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Louis. Au début des années 90, plusieurs républiques appartenant à la Yougoslavie déclarent leur indépendance. C'est le cas de la Bosnie-Herzégovine. Mais des Serbes bosniaques, menés par le chef militaire Ratko Mladic, refusent cette indépendance et assiègent la capitale, Sarajevo.
Ce siège va durer de 1992 à 1995.
Ratko Mladic ordonne à ses troupes de bombarder la ville sans discrimination.
Il faut les rendre fous, dit-il. Pour les habitants, commence alors un quotidien de bombardements aveugles qui fera plus de 10 000 morts.
L'ONU a pu préserver ses positions sur l'aéroport de Sarajevo et un tunnel sera construit sous l'aéroport qui permettra notamment d'évacuer certaines personnes. Seuls les humanitaires peuvent normalement faire acheminer de la nourriture et rentrer ou sortir. Quelques étrangers se retrouvent alors dans la ville.
Christophe faisait partie de ceux-là, arrivé par hasard, dans une guerre dont ils ne connaissent rien.
Mais qu'est-ce qu'on voit d'une guerre et de ce que ressentent vraiment ses habitants quand on s'y trouve volontairement? Et comment se souvenir, avec son seul prisme, ses désirs, ses fantasmes, de ce qui a réellement eu lieu?
Aujourd'hui, dans Passage, une histoire de bombes, de départ et de mémoire fautive. Une histoire d'amour à Sarajevo. Celle de Christophe, au micro, d'Annika et Rijzen.
Je suis Charlotte Pudlowski.
Je suis Maureen Wilson.
Bienvenue dans Passage.
Je me suis rendu compte au fil de la vie, c'est pas simplement lié à mon expérience à Sarajevo, mais on a comme repère les premières fois, parce qu'elles sont les premières fois qu'on va dans un pays, la première fois qu'on rencontre une personne, la première fois qu'on fait l'amour. Et puis il y a des dernières fois, les dernières fois c'est tout le contraire, on ne sait jamais quand une dernière fois va être une dernière fois, c'est-à-dire on voit une personne que normalement on serait amené à revoir régulièrement, famille, amis, le boulanger du coin. Et puis au bout de 10 ans, on se rend compte que on ne l'a plus jamais vu et puis probablement on ne la verra plus jamais. Le début de l'histoire, je le fais remonter à l'âge de 19 et 20 ans, quand j'ai rencontré les gens qui allaient devenir l'équipe du Serious Road Trip, et en particulier donc Nev, quand il me dit « j'ai une idée, ça s'appelle The Serious Road Trip ». Et pourquoi ? Parce que c'est exactement ça, c'est un long voyage par la route. Et il nous dit qu'il aimerait bien acheter un bus à Impérial, donc un bus à étage rouge de Londres, pour le conduire de Londres jusqu'en Nouvelle-Zélande, en s'arrêtant dans 12 pays sur l'itinéraire pour faire de l'humanitaire. Bonne idée, super. Moi, je suis là pour aider. On part très précisément le 7 mai 1992. À bord du bus, on est 12 personnes. L'itinéraire est bien ficelé, c'est-à-dire que de tête, on doit s'arrêter en Bosnie-Herzégovine, en Roumanie, en Pologne, en Russie, en Arménie, au Kurdistan, en Iran, au Bangladesh, au Vietnam, au Laos, en Australie et Nouvelle-Zélande, le dernier. Voilà. Le truc, c'est que nous, on est partis le 7 mai 1992, pratiquement un mois, jour pour jour avant ça, la guerre éclate en Bosnie, le 6 avril 1992. On nous offre que le bus soit à la tête d'un convoi, le premier convoi à interrompre le siège de Sarajevo. On nous annonce une centaine de véhicules. On y passe une nuit à discuter. Avec des cris, des insultes, des larmes et tout ce qu'on peut imaginer. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Il y a eu un vote, donc on était 5 pour aller à Sarajevo, 7 pour ne pas y aller. De quelle manière on s'est retrouvé à y aller? Je pourrais même pas le dire. Donc les 7 personnes qui avaient voté contre ont pris le train pour aller à Bucarest, nous attendre pour la deuxième étape, et les 5 autres personnes ont rejoint le convoi à la frontière croate, pour ensuite cheminer jusqu'à Sarajevo. Donc on est le 19 juin 92. On entre avec le convoi par la seule entrée possible et qui est l'aéroport. L'aéroport est la ligne de front entre les forces bosniaques et les forces serbes. Je pense que le bus n'a jamais roulé aussi vite de sa vie. À gauche sont les Bosniaques qui défendent Sarajevo, à notre droite sont les Serbes qui l'agressent, et donc tout le convoi se fait tirer dessus de la droite. C'est le bruit le plus fort, c'est-à-dire que on a un moteur de bus qui fait un bruit d'enfer parce qu'on va à une telle vitesse, mais on entend les impacts des balles. Au premier impact, on pense même que d'ailleurs le moteur a explosé. Il est 9h du matin quand on s'élance pour ça. On a anticipé en faisant suivre le café du matin à bord du bus par des rasades de vodka. On boit une bouteille à 4, Paul le chauffeur, non. Et on met de la musique dans le bus et on met une chanson de Bob Marley, « Coming in from the north ». La raison revient quand Paul nous dit « on est sorti de l'aéroport ». Et là, on commence à relever la tête. Moi, j'étais très, très fier. Très, très fier. Je vis 50 premières fois en 10 minutes, c'est-à-dire première bombe, premier cadavre, première maison détruite, première balle qui ricoche à 1 mètre de moi, première fois que j'ai bu de la vodka à 9h du matin. Et puis première fois aussi de me dire « là, tu sers à quelque chose ». Toi, t'as ta place là. Il y a ça. Toi, t'as ta place là. Et c'est une naissance, en fait. Il y a une phrase que j'ai lue il n'y a pas longtemps qui est « On ne découvre la guerre qu'une seule fois, alors qu'on découvre la vie plusieurs fois ». Mais c'est exactement ça. Je vois des gens, pas beaucoup de gens, mais je vois des gens dehors. La manière de se déplacer qui est très bizarre. C'est tout le contraire de la manière des gens de se déplacer dans la ville et la vie normale. C'est-à-dire qu'on court, on est derrière un arbre, on regarde les collines, et puis après on se met à courir derrière un autre endroit de refuge, et puis on longe les murs. On n'est jamais en groupe, on est toujours tout seul. Alors il y a des gens qui sont couchés le long d'une voiture. Tu dis, c'est quoi ça? T'en as qui se cachent jusqu'à ce que ça arrête de tirer. Après ils se lèvent, ils repartent, ils courent, ils se recachent et tout. C'est un théâtre quoi. Le bus arrive à l'entrepôt. Et on décide d'aller se garer dans ce qu'on considérait comme une petite rue, donc pas exposée. Il y a une petite fille qui rentre dans le bus et qui dit « Venez avec moi, il y a mon papa qui vous invite ». D'accord. On la suit et elle nous fait entrer dans un immeuble, hop, monter 3 étages. Elle nous emmène dans son appartement, la porte est ouverte. Son papa, dans un anglais absolument parfait, nous dit bienvenue chez moi. Et il fait le café sans trop, pratiquement comme si on, comme s'il nous attendait, comme si on avait rendez-vous. Alors que... ouais, ok. Et la première chose qu'il nous demande, c'est quand est-ce qu'on repart. Pour moi, il y a un déclic qui se passe quand il me dit tout le monde était persuadé que les Nations Unies, l'OTAN, la communauté internationale, qu'ils arrêteraient ça en 5 minutes, quoi. C'est-à-dire que cette bande de Serbes qui a quitté les baraques de l'armée pour se mettre sur les collines, qui a emporté les chars et les obus pour bombarder la ville, faut arrêter ça. Il dit ouais, en gros, si vous restez pas, vous êtes comme les autres, quoi. Et moi, je commence à me dire mec, t'es venu, t'as vu, et ton devoir est là, quoi. Je commence à me dire, je peux rester à Sarajevo pour donner un coup de main. Et puis de toute façon, la guerre, ça va se terminer. On arrive au pied des 2 tours les plus élevées de Sarajevo, dont l'une est à moitié brûlée, avec le croissant rouge local à Sarajevo. Et le gars de la Croix-Rouge, Samir, il nous fait monter 3 étages. Il nous pousse une porte et il nous dit bah, « voilà, c'est votre bureau ». Alors les fenêtres sont pour la plupart pétées. Il y a les faux plafonds qui se sont pas mal écroulés, donc il y a pas mal de restes de faux plafonds. Alors c'est très grand, c'est très spacieux, sauf qu'il n'y a rien. Alors il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, voilà, bref. On voit une deuxième porte qui aboutit à une pièce dans l'angle de la tour, en fait, qui sera notre chambre. On met 2 matelas au sol, avec matelas, sac de couchage, oreiller, et voilà. Dormir à Sarajevo, c'est dormir avec le bruit des explosions, des projectiles qui touchent la tour, et des fois qui touchent des trucs dans la salle d'à côté, et puis des fois qui touchent la fenêtre de la pièce où tu dors. Et on sait que, potentiellement, à chaque fois qu'il y a un bruit, il y a un mort, ou des morts. Pendant des jours et des jours et des jours, on va pas plus loin que ça, quoi. On va pas plus loin que ça parce que on sait aussi que les mecs, c'est pas la fête foraine, ils gaspillent pas leurs munitions, donc ils savent ce qu'ils font, quoi. Au début, on dort pas, en fait. Pendant des jours, on dort pas. Il se passe un truc très étrange, c'est que on finit par être bercé par ça. Au point que les rares fois où, pendant quelques heures, il n'y a pas une détonation, on a envie que ça recommence pour... je ne sais pas l'expliquer, ça. Alors qu'on sait aussi, parce que pendant 3-4 semaines, donc juillet, août, on sillonne la ville pour savoir quelle est l'ampleur des besoins. Je me rends compte que, finalement, ce que les gens demandent le plus... c'est à manger. Donc, il faut un camion, quoi. Il faut un camion et il faut le remplir. Le 6 septembre 92, en fait, on part avec un premier camion pour Sarajevo. Moi, je me rends compte que 16 tonnes de vivres, ça part en une semaine à peu près. Donc, moi, j'envoie le message à Londres de dire « ça serait bien d'avoir plus de camions ». Et nous est venue la nouvelle d'un soldat de l'armée britannique qui nous a dit « Mais écoutez, pourquoi vous n'allez pas aux ventes aux enchères de l'armée britannique, ils vendent des camions, le prix de départ, c'est 1 livre. » Donc nous, on enchérit, premier camion, hop, 1 livre. 1 livre, 1 fois, 2 fois, 3 fois, adjugé, 1 livre, au serious road trip. Deuxième camion, 1 livre, 1 fois, 2 fois, 3 fois, adjugé, au serious. Et on en achète 5 comme ça. Et on était là, mais putain, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? 5 camions pour 5 livres, quoi. Bon. Et donc, à partir de mars 1993, on fait des convois presque hebdomadaires. Une personne à qui on distribuait de la nourriture et qui a fini par devenir un très bon ami me parle des répétitions d'une comédie musicale qui s'appelle R et que lui y va parce que sa sœur joue dedans et que si je veux venir, je suis le bienvenu. Donc on descend un escalier, donc avec l'impression d'aller dans une cave. Il y avait toujours ce problème de pas d'électricité, donc c'était assez obscur. Voilà, on s'installe et contrairement au spectacle habituel où les lumières s'éteignent pour faire place au spectacle, ben là c'est le contraire, c'est les lumières s'allument. Et donc commencent les danseurs, les danseuses arrivent sur scène. C'est le monde de dehors, c'est-à-dire le monde qui n'est pas en guerre, qui débarque dans une cave à Sarajevo. C'est vraiment ça, c'est des ovnis, c'est des extraterrestres. En fait, c'est la... Je me dis, ouais, mais ils ont une énergie pas possible, quoi. Ils dansent, ils font des mouvements, enfin, d'où ils tirent leur énergie, ils doivent bouffer plus que les autres, c'est pas possible. Enfin, y a plein de choses qui me passent par la tête. Moi, je me sens super bien, quoi. C'est un côté magique dans ce monde où tout est dur, tout est noir, tout est violent, tout est. Ben, y a quelque chose d'encore plus beau que dans le monde de la paix, quoi. Et c'est ce spectacle, quoi. Je regarde tous les musiciens, toutes les danseuses, tous les danseurs, le chanteur, la chanteuse, en me disant, c'est les meilleurs artistes du monde, quoi. Y a pas mieux, ils sont trop forts. Je vois le spectacle de ma vie, quoi. Le spectacle se termine et les lumières s'éteignent. Avec Nedo, on va dans le foyer où on avait rendez-vous avec sa sœur. Sa sœur est accompagnée de Leïla. Et donc Leïla et Elvira étant deux des danseuses sorties de tout droit d'un conte de fées, quoi. On parle. Moi, personnellement, j'oublie tout ce qu'il y a autour de moi et je sais plus trop si je suis dans le monde du spectacle qui vient de se terminer ou si je suis dans le monde de Sarajevo. Il se passe un truc magique, en fait, à ce moment-là, c'est que Leïla, elle me prend par le bras, alors que pour moi, c'était devenu, en l'espace d'une heure et demie, elles sont devenues des stars, en fait. C'était... Mais bon, elle me prend par le bras et elle m'emmène dehors. Et là, je me rends compte que je retrouve pas le Sarajevo de quand je suis entré une heure et demie plus tôt. Alors que on est passé de 10h du matin à midi, quoi. Mais je retrouve pas le Sarajevo de plus tôt parce que, en fait, moi, j'emmène la féerie du théâtre avec moi dehors, quoi. Commence à discuter vite, sachant que bon, c'était en anglais, mais dans un anglais approximatif, parce que Leïla parle pas bien anglais, puis moi, mal serbo-croate. Mais on se débrouille et on rigole, parce que elle me trouve vachement inquiet, et elle se moque un peu de moi. Elle se moque un peu de moi, mais très gentiment, et elle me fait comprendre qu'elle est... Bah, plus endurcie, aguerrie, qu'elle a plus l'habitude de ce Sarajevo en guerre, des coups de feu, des bombes et tout ça. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle me tient par le bras. En fait, elle me tient du genre en disant « Mais ouais, n'aie pas peur, n'aie pas peur. » Et du coup, moi, j'ai pas peur, quoi. Et je perds tout ça. Et donc, ce moment de chaleur, de confort, de bien-être et de beauté, de charme, de... que j'ai vécu pendant le spectacle, à sa manière, elle me montre, c'est vrai, quoi. C'est ce spectacle, c'est une fiction, mais bah, du coup, non, c'est une réalité aussi de Sarajevo. Et bon, mais on discute, et moi, je me dis que ça durera jamais, quoi, qu'on discute comme ça jusqu'à la fin de la vie. Elle me dit, t'habites où ? Et donc, je lui dis, bah, en fait, derrière, quoi. on a dépassé chez moi. Toi, t'habites où ? Et elle dit, bah, voilà, je peux te montrer. C'est tout, je l'ai raccompagnée jusqu'à chez elle. En fait, c'est elle qui me dit, bah, de toute façon, on répète demain. En rentrant, ouais, je me suis dit, mais en fait, ça se passe pas comme ça, les rencontres d'habitude. Ça se passe jamais comme ça, c'est pas normal du tout, quoi. Ce qui était pas normal, c'est qu'on n'a pas fait attention l'un comme l'autre à ce qui aurait dû nous rappeler à la normalité, c'est-à-dire faire attention au bruit pour savoir si les projectiles tombent près, loin, à quelle hauteur, de quelle taille, etc. Et c'est vrai que c'est la manière d'être à l'extérieur à Sarajevo, c'est une oreille en alerte par rapport au bruit et l'autre oreille à la conversation. Donc on n'est jamais tout à fait là, ni d'un côté ni de l'autre. Et que là, du coup, on s'était coupé du monde extérieur, ce qui est très dangereux, en fait. Leïla, elle a 23 ans, et moi j'ai 22 ans. Je sens une personne très très bonne et un peu complètement barrée aussi, quoi. Son mode de survie, c'était vraiment de dire « Non mais vous m'imposerez rien, quoi. vous m'imposerez rien du tout. Ici, c'est chez moi et je fais comme chez moi et je vous emmerde. À tel point que quand on va de A à B, elle s'arrêtait au milieu de la rue, se tournait vers les collines. Elle faisait un doigt d'honneur ou un mât ou aux gens qui nous tiraient dessus, quoi. Des fois, elle danse, quand elle a un parapluie, elle fait des mouvements avec son parapluie, comme ça, en sautillant, en tournant. Ça me rend fou, mais d'un autre côté, ça me fascine aussi. En fait, on devient un couple quand, une fois, au mois de décembre, je lui demande, est-ce que je pourrais rester chez toi ce soir ? Et elle me dit, mais oui, oui, mais reste. Et puis... on se rend compte le lendemain, au réveil, que c'est Noël. Donc, elle me dit, ouais, c'est, bah, tu vois, c'est Noël, donc reste là. Et on a passé quelques jours ensemble chez elle, comme ça. Voilà. Après ça, ça a commencé à devenir un truc que quand on se raccompagnait l'un chez l'autre, ouais, bah, tu veux rester, et puis on restait pas, voilà. Là où j'habite, qui est une tour de 30 étages où il n'y a personne d'autre sauf le garde avec sa mitraillette en bas, on a passé beaucoup de temps là, quoi, littéralement fermant la porte à clé de l'intérieur et nous faites pas chier, quoi. Si vous voulez nous interrompre, tirez un obus, quoi. C'était comme ça, quoi. Même pas que sur la tour, sur les deux tours, on était très souvent les deux seuls occupants, quoi. Donc, t'as ce côté-là où t'es Sarajevo est sous l'œil du monde, et dans Sarajevo, il y a ces tours qui sont sous l'œil des télés, parce que c'est on ne voit qu'elles. Et nous, on était là-dedans, avec la certitude que bah, là, personne viendra nous chercher, quoi. Donc, ça décuplait le truc. J'étais prêt à mourir, quoi. Je me dis, si jamais un obus traverse la pièce et qu'il nous découpe, quoi. 22 ans pour moi, 23 ans pour Leïla. C'est le mois de janvier à Sarajevo. Il neige et si ça doit se terminer comme ça, ça se terminera comme ça, quoi. Dit beaucoup au jour le jour, c'est pas à toi de le faire. Donner de l'aide humanitaire, risquer ta vie, t'as 2 ans d'études supérieures, t'as 22 ans, la vie devant, tu te préparais à aller voyager et là, c'est la roulette russe, quoi. Donc c'est pas à toi de le faire. Je pouvais pas, je lui disais non, je peux pas quitter Sarajevo tant qu'il y a des besoins. Ok, c'est pas à moi de le faire, t'as raison, c'est pas à moi de le faire. Mais en même temps, personne ne le fera à ma place. Elle me dit, moi, si tu veux pas partir, elle comprend très bien que c'est aussi parce qu'elle est à Sarajevo que je veux pas partir. Et vice-versa. Moi, je pense qu'elle veut me faire partir pour me retrouver dehors. Donc, il y a un compromis qui est de dire, écoute, toi, Leïla, tu quittes Sarajevo et on se retrouve à Londres et on continue notre vie là-bas. Moi, en fait, je peux... partir quand je veux. On prend cette décision qu'elle quitte Sarajevo fin février 93, début mars 93. Quitter Sarajevo, c'est pas simple. Donc, on fait tout avec le Serious Road Trip. On lui fournit tous les papiers pour dire que, nous, c'est notre recrue. On a besoin d'elle à Londres. Donc, on lui fait tous les papiers pour qu'elle puisse quitter Sarajevo avec ça. Elle quitte Sarajevo par un tunnel qui est creusé sous la piste d'aéroport, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de fuir Sarajevo par la piste d'aéroport, qui est en fait c'est complètement dégagé. Et puis de l'autre côté, il y a les Serbes qui tirent. Et il y a beaucoup de gens qui sont morts, en fait. Donc un tunnel avait été construit, en fait, pour pouvoir traverser sans problème, quoi. Le lien, c'est le Serious Road Trip. En fait, quand je rentre à Londres, si tout se passe bien, tu travailleras carrément dans les locaux du Serious. Donc, le projet, c'était ça. C'était que là, on est en avril 93. Si je rentre en mai, juin, juillet, Leïla sera à Londres, au Serious. Voilà. Moi, j'arrive à Londres en juin. Et là, Leïla n'est pas là. Elle n'est pas là. Il y a quasiment très peu de traces de présence de Leïla. Certaines personnes pensent à peu près voir de qui je veux parler, mais en fait, personne n'est fichu de me donner un contact, quoi. Ben moi, à partir de là, j'ai pas trop de pistes, quoi. Donc peut-être j'aurais pu m'installer si j'avais retrouvé Leïla, mais elle n'est pas là. Je dois rester un mois à peu près, et je retourne à Sarajevo, et voilà. Je retourne à Sarajevo et je me dis que elle a probablement choisi autre chose, quoi. Je sais pas quoi imaginer, mais elle a choisi autre chose. J'espérais juste qu'il lui soit rien arrivé de mal, ça oui, mais sinon je me disais non, elle fait autre chose. Je sais pas quoi. D'un côté, je me dis ça vient juste d'arriver, quoi. C'est tellement de choses. Tellement forte. Faut pas oublier qu'on est dans un état d'esprit où on avait, comme plein de gens d'ailleurs à Sarajevo, on avait intégré l'idée que la guerre ne se terminerait peut-être jamais. Leïla, surtout, moi non, mais Leïla disait « mais je me demande si je sortirai un jour de cette ville ». Donc, moi je sais que potentiellement, le fait d'être sorti de Sarajevo, ça lui a fait un gros choc, quoi. Et moi, ce que je pense, c'est, je me dis « ouais, bah on verra, quoi. On verra ». En fait, moi, je suis pas inquiet. Pour moi, je suis pas du tout. Elle s'est échappée. Pas du tout. Je me sens pas largué à ce moment-là, en tout cas. Jusqu'à ma prochaine sortie de Sarajevo, à l'automne 94, je continue à chercher Leïla par l'intermédiaire de sa mère, qui n'a pas de nouvelles, et à Londres, pas de nouvelles, quoi. Pas de nouvelles. Je perd le contrôle du truc. Enfin, ça commence à faire longtemps, quoi. Je commence à me dire qu'elle m'a largué et qu'elle est partie dans une autre direction, quoi. Je me dis, ça fait partie des grosses merdes de la guerre, quoi. Acceptation, très lente acceptation. C'est un espoir qui va aller s'amenuisant jusqu'à plus du tout de la retrouver. Et que ma déception, ma douleur, ma tristesse va augmenter au même rythme que l'espoir diminue. Et à un moment, je me dis, ouais, bah là, c'est bon, quoi. J'arrête. J'arrête et de chercher, d'espérer. C'est pas possible, quoi. D'un autre côté, moi, j'ai continué à vivre. Entre-temps, je rencontre Snejana, elle est interprète pour le Serious Road Trip. Et donc, j'arrête de chercher Leïla en 97. En fait, je me prépare à me marier. Je rentre en France, m'installer chez mes parents, avec Snejana. Et je me dis, il faut que je me satisfasse d'un truc qui est moins bien, mais bon. On monte à deux le Serious Road Trip français. Donc on est très impliqué là-dedans jusqu'en l'an 2000. Et en l'an 2000, je me rends compte que c'est dur, quoi. C'est dur financièrement, c'est dur physiquement, c'est dur. Ça fait déjà 9 ans de Serious derrière moi, avec pas mal de voyages, la guerre, l'expérience avec Leïla. J'ai 30 ans et ouais, je veux me poser. Et pour me poser, y a deux choses qui me posent bien. C'est que je vais à l'université, entamer des études de traduction. Le jour même de mon examen d'admission à l'ESIT, naît ma première fille, Anna. Ces deux choses-là, littéralement, arrivant le même jour, me tracent la voie quand même. Ça me trace la voie d'une carrière, j'espère, à venir dans la traduction. Et ça me trace la voie d'une vie avec enfant. J'ai 18 ans devant moi parce que je me dis, bon, ben voilà, maintenant, il y a un enfant, tu n'iras plus dans des zones en guerre. Tu partiras même plus trop de la maison, d'ailleurs. Voilà. Ma vie est tracée, vraiment. En 2003, à la fin de mes études, j'obtiens le diplôme. Entre-temps, ma deuxième fille, Eva, est née. Et j'obtiens mon premier poste de traducteur à Glasgow, où on vit pendant 3 ans, jusqu'en 2006. Bon, et là, c'est les aléas de la vie. Donc, Snejana décide de déménager. Et donc, on s'installe à Marseille en 2006. Et moi, je continue en traducteur indépendant, sachant que le déménagement à Marseille en 2006 a commencé à marquer une rupture dans le couple et les choses se sont pas vraiment améliorées. Ce qui fait que, d'un commun accord avec la maman de mes enfants, on a décidé de continuer ensemble le temps que nos deux filles atteignent l'âge adulte. Ce qui est arrivé pour l'aînée il y a 2 ans maintenant et arrivera pour la Benjamine l'année prochaine. Alors, en janvier 2020, je pars à Londres pour me rafraîchir un peu la mémoire par rapport à un livre que je suis en train d'écrire sur le Serious Road Trip. À Londres, mon ami Max me dit qu'il a retrouvé quelqu'un, un chanteur de la comédie musicale Air à Sarajevo, Igor, et qu'on pourra aller boire un pot ensemble. Donc, c'est ce qu'on fait, on va boire un pot. Et évidemment, dans la conversation, je demande à Igor, R, tu t'en souviens, tout ça. Et bon, on en parle pas mal. Et puis, je lui demande, et voilà, comment va un tel et un tel et un tel. Évidemment, je lui parle de Leïla. Et il me dit, ouais, moi, je suis en contact avec elle. Elle est à Londres, elle habite à Londres, et on se voit de temps en temps. Waouh! Alors, moi, ça me... je me dis... Incroyable, quoi. Enfin, ça m'a cloué le bec. Ça m'a vraiment cloué le bec parce que c'est la possibilité d'une porte, la porte du paradis, quoi. La possibilité de, j'ai peut-être trouvé la clé de la porte du paradis. Et donc, je dis à Igor, envoie à Leïla mon numéro de téléphone et puis dis-lui que je suis à Londres et que je serais très content de la voir, quoi. Moi, rentrant à la maison, je me dis, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est une fois de plus, j'ai plus le destin entre les mains. Donc, le lendemain matin, après cette soirée avec Igor, je me réveille et je vois que j'ai 3 appels manqués d'un numéro de portable au Royaume-Uni. Je réfléchis même pas à ce que je vais dire. Je rappelle. Là, ça décroche. Et moi, je dis, je crois que ce numéro a essayé de m'appeler. Et elle me dit un truc comme, oui, c'est possible. Et elle me dit, mais qui ça pourrait être? Et moi, je dis, je sais pas. Bon, puis on a éclaté de rire, en fait. Évidemment qu'on savait qui on était. Voilà, après, Leïla m'a dit, on se voit quand? On a pris rendez-vous pour le soir à 7h, dans la cour d'un pub près de London Bridge. Moi, j'ai passé mon coup de fil, il devait être 10h du matin. J'ai passé ma journée de 10h du matin à 7h à penser qu'à ça, quoi. Quelle personne j'ai trouvé, quoi. Est-ce que, comme dans des amitiés, on reprendra où on l'avait laissé? Mais là, c'était même pas une amitié, là, c'est un amour. Donc, est-ce qu'on reprend là où on l'a laissé? Est-ce qu'il y aura 26 ans de transformation et que on correspondra plus du tout l'un à l'autre? Qu'est-ce qu'a pensé l'un et l'autre dans l'intervalle? Comment elle va être? À quoi elle s'attend? Et puis moi, à quoi je m'attends? Qu'est-ce que j'aimerais, en fait? Et j'étais un tout petit peu en avance. Et en fait, j'ai traversé la rue et j'ai fait demi-tour, quoi. En me disant, oh là là, mais attends, mais t'as eu que des pensées confuses pendant toute la journée. C'est de la bouillie dans ton cerveau, quoi. Et là, je me dis, écoute, fais ce que tu sais faire de mieux. La vérité, la vérité, la vérité. Donc, tu laisses aller tes sentiments, tu laisses aller, tu dis tout ce qui est. T'es pas Christophe de 1993, ni de 97, ni de 2000, ni d'hier, quoi. Tout est simple, sois toi. Et tu peux rien faire de mieux, quoi. Tu peux rien faire de mieux. Ben, je rentre et je vois quelqu'un qui attend tout seul et tourné vers, vers la sortie, quoi. Bon, et puis je reconnais Leïla. Et je sais pas, c'est idiot, mais je me dis, t'as pas rêvé pour rien, quoi. C'est vraiment ça, je me dis, t'as pas rêvé pour rien. Enfin, ça me rappelle toutes les fois où je me suis réveillé en pensant à Leïla, ça m'arrivait, mais n'importe quand, en 2002, en 2004, en 2008, de me dire, ouais, il y a eu cette personne, et elle est inoubliable, quoi. Je pense que c'est quelque chose comme quand on dit « j'ai retrouvé l'enfant qui était en moi ». Et c'est un peu comme ça, j'ai vraiment retrouvé une partie de moi. Pour moi, c'était le vrai moi, quoi. C'était le moi d'avant les compromis, c'était le moi d'avant de vivre au rabais, c'était le moi, Christophe, de la plénitude, de l'amour, de la joie, de la personnalité avec laquelle t'es super à l'aise. Et voilà, vraiment une bouffée de bonheur. En fait, la même bouffée de bonheur qui m'était venue finalement la première fois au théâtre à Sarajevo quand j'ai vu Leïla pour la première fois. Même bouffée de bonheur. On se voit, ben on tombe dans les bras l'un de l'autre et on se serre aussi fort qu'on peut serrer tous les deux une personne, quoi. Et en fait, là, moi, on serre pendant très longtemps, pendant vraiment très longtemps. Peut-être 10 minutes, quoi. Super longtemps, quoi. Et là, j'ai compris qu'il n'y avait plus d'inquiétude à avoir. On s'est touché dans le dos, dans le cou, dans les cheveux et tout. Et je pense qu'en fait, déjà, on s'est dit plein de choses avec les mains, comme ça, vraiment en se touchant partout. Au bout d'un moment, après, on s'est un peu écarté. On a eu exactement le même geste, tous les deux, qui était de prendre la tête de l'autre, comme ça, de la serrer. Et on a fait exactement la même chose. Leïla, elle a commencé à me sentir mon cou et moi, j'ai senti son cou. Et tout d'un coup, tu te dis, mais t'as douté, t'as dit, ouais, mais attends, comment elle a fait sa vie? Elle m'a largué, elle s'est mise avec quelqu'un d'autre, etc. Enfin, comment ça s'est passé, tout ça? Toutes les possibilités de quelqu'un que tu adores et que tu aimes et qui devient moins bon, etc. Elles sont balayées, en fait, dans cette étreinte où tu te dis, deux êtres pourraient pas se serrer comme ça, en fait, si on n'était pas resté, en fait, aussi éperdument amoureux, quoi. Elle a commencé à parler, en fait, à devancer mes questions. Leïla m'explique qu'elle aussi m'a cherché après être arrivée à Londres de Sarajevo et qu'elle ne m'a pas trouvé. Et qu'elle m'a cherché jusqu'en 97, c'est-à-dire la même année que moi. C'est-à-dire, en gros, on a arrêté de se chercher à peu près au même moment. Elle m'a principalement cherché par le biais du Serious Road Trip et par le biais de nos connaissances communes à Sarajevo, puisque bon, la guerre étant terminée, elle y est retournée. Et c'est vrai que les premières années 95, 16, 17, j'étais pas en communication. J'étais en communication avec personne d'ailleurs. De ce côté-là, c'était pas possible. Après, on n'avait pas d'adresse, de numéro de téléphone, on a toujours du mal à imaginer ça dans la société hyper connectée dans laquelle on vit, mais nous, en tout cas, en 1997, on a fait tous les efforts et on n'a pas réussi, quoi. On n'a vraiment pas réussi. Quand le pub ferme, on passe une bonne partie de la nuit à déambuler dans les rues de Londres. Et quand on se quitte finalement, Leïla me dit « Mais au fait, on ne s'est pas embrassé. » Je dis « Ah ouais, on ne s'est pas embrassé. » Donc on s'est embrassé. Et le deuxième soir, c'était l'inverse. Je dis « Ouais, non, mais attends, embrassons-nous, faisons des provisions. » Et donc moi, je rentre le lendemain à Marseille, le vendredi. Leïla m'appelle le dimanche et elle me dit qu'elle allait me proposer une idée folle. Vu qu'on n'avait pas réussi à quitter Sarajevo ensemble, ça serait bien qu'on rentre à Sarajevo ensemble. L'idée, c'est de partir de Londres en voiture, faire le chemin inverse. Et pour moi, c'est un peu penser les plaies, c'est-à-dire, en gros, du moment qu'elle, elle a quitté Sarajevo, ça a été la merde. Et là, en revenant à Sarajevo, donc ensemble, va de nouveau dans le sens de naturel de nos vies, quoi. On fixe la date du 4 avril pour prendre le bateau donc d'Angleterre jusque sur le continent. C'est son idée, qui s'inscrit dans un projet plus large qu'elle me dira, qu'elle me dit immédiatement. Pour elle, ce sera l'occasion de déménager de Londres à Sarajevo. Avec Leïla, on s'appelle tous les jours et pendant des heures, on bouffine les détails du voyage. Mais l'actualité, c'est vrai qu'elle prend de plus en plus de place dans nos conversations, puisque il est de plus en plus question du coronavirus. Bon, on commence à se douter que traverser l'Europe dans ce contexte-là, ça sera peut-être pas si facile que ça. En mars, on confine en France. Fin mars, on confine en Angleterre. Ben, le road trip est remis un petit peu ad vitam aeternam, hein, quand on pourra le faire. Alors là, on évoque l'automne 2020, si ça doit être l'hiver 2021, ça sera comme ça, ou voire même dans un an. À un moment, lors d'une conversation, Leïla fait référence au voyage à venir en disant « if you are still in the mood ». Je lui dis « c'est pas une question de mood, quoi, c'est pas une question d'humeur ». C'est un truc, ça fait déjà des mois qu'on l'a prévu. Enfin, c'est pas un matin je le fais, un matin je le fais pas, quoi. C'était acquis. Donc, je me pose la question de savoir d'où ça vient, en fait, cette question, parce qu'il y a clairement le début d'un doute, mais je lui pose pas la question. Jusqu'au moment, en fait, où Leïla me dit, je t'appelle plus, appelle-moi quand ça te fait plaisir. Bon, ce que je fais. On continue à se parler, mais les appels s'espacent à tel point que, je dis par texto à Leïla qu'elle peut m'appeler aussi. Et finalement, très précisément, entre le 17 mai 2020 et le 10 juin, il n'y a plus d'appels. Il n'y a plus d'appels. On s'envoie des textos quotidiennement presque, mais il n'y a plus d'appels. Et le 10 juin, c'est finalement Leïla qui m'appelle. Elle me demande de lui rendre l'argent qu'elle avait avancé pour le voyage. C'est-à-dire qu'on a estimé les coûts qui étaient à hauteur de 2200 livres. Et à l'époque, Leïla, tout de suite, me dit « Bon, écoute, comme c'est toi qui prends les billets de ferry, de Airbnb et tout, je t'envoie la moitié, on fait moitié-moitié, et voilà. » Et bon, 3 jours plus tard, elle me dit qu'elle, ça tient toujours, mais qu'en gros, son ancien petit ami avec qui elle a rompu, James, aimerait bien faire le voyage aussi. Avec James, elle avait rompu dans une semaine ou deux après nos retrouvailles. Et c'est là que je me dis, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Je lui demande si du coup, elle est toujours dans l'humeur de faire ce road trip. C'est la même question. Je lui retourne la question qu'elle m'a posée. Et en fait, elle répond pas à cette question. Pendant 3 semaines, j'ai pas un message. Donc la question en suspens. Début juillet, en gros, je voulais avoir un peu la conscience nette, quoi. J'écris un message à Leïla et je donne volontairement au message un tour un peu provocateur. En disant, puisque tu veux pas répondre, moi je vais te dire ce que je pense. Je pense que tu as réellement changé d'avis, et je pense même que, en fait, cette histoire de road trip, tu t'es trouvé un bon plan pour déménager de Londres à Sarajevo pour pas cher, quoi. Je lui envoie ce message, elle réagit violemment, en disant à demi-mot que, oui, effectivement, elle a changé d'avis, mais qu'elle a des bonnes raisons pour avoir changé d'avis. Les bonnes raisons en question, c'est qu'elle me perçoit comme un menteur, comme quelqu'un qui pervertit la vérité. Et elle fait reposer ses accusations sur une chose qui est son départ de Sarajevo. Et Leïla a quitté Sarajevo par la piste d'aéroport. Et moi, j'ai toujours été convaincu que Leïla avait quitté Sarajevo par le tunnel qui était à cette époque-là en train d'être creusé sous la piste d'aéroport. Moi, je pensais qu'il était terminé et l'époque de courir à travers la piste d'aéroport, c'était terminé. Et donc, Leïla a fini par entendre ma version des faits et donc m'a accusé d'avoir menti. Elle a ajouté à ça que je racontais autour de moi que je l'attendais à l'autre bout du tunnel pour me faire mousser, pour passer pour un héros. Alors là, chose que je n'ai jamais dite, qui s'est jamais passée, que on peut demander à toutes les personnes à qui j'ai raconté effectivement, enfin l'histoire de Leïla telle que je la pensais, il n'y a jamais eu cet élément-là. Et là, je me suis dit, bon, ma première réaction, ça a été de me dire, ok, en fait, Leïla fait des montages dans sa tête. Elle m'accuse de mentir, mais là, clairement, il y a une dimension que je ne soupçonnais pas, que je ne connaissais pas, qui s'est ajoutée au personnage, dont j'étais amoureux, et qui était une dimension noire, très négative, en fait. La première fois où j'ai vu qu'il y avait des divergences, finalement, qui pourraient être profondes, c'est quand Leïla elle-même m'a rappelé, lors de nos retrouvailles à Londres, m'a rappelé que, en 97, c'est-à-dire 4 ans après qu'on se soit perdu de vue, elle a réussi à trouver mon numéro de téléphone, m'a appelé. Et moi, c'était juste avant quelques jours ou semaines avant mon mariage, et j'avais pas la tête à ça, j'étais probablement très surpris. Et moi, je l'ai accueilli, on va dire, froidement. Froidement, au sens où... Moi, mon truc, c'était de dire, attends, on laisse passer le mariage et je te rappelle. J'ai pris son numéro et j'ai rappelé. 3 mois plus tard, un truc comme ça. Et là, c'était un numéro inexistant. Après, Leïla m'a dit que, oui, ça ne l'étonne pas qu'elle ait foiré dans le numéro parce que ça lui arrive souvent. Enfin bon, bref, le numéro ne marchait pas. Je ne vais pas parler de ce coup de fil parce que je l'ai oublié, en fait, ce coup de fil. Elle ne l'a pas du tout oublié. Donc, en janvier 2020, quand elle a reçu mon numéro de téléphone, Leïla a hésité avant de m'appeler en disant « Est-ce que ça ne va pas être comme en 97 et que je vais avoir cette voix froide au bout du fil qui s'en fout ?» Elle a hésité, mais finalement, elle est passée outre, elle m'a appelé. Alors, la situation aujourd'hui, c'est qu'on ne communique plus. Et je ne pense pas qu'on sera amené à communiquer vu que je ne tendrai pas le bras. L'histoire avec Leïla est bel et bien terminée. Elle est terminée, c'est... D'une certaine manière, elle a été terminée il y a très très longtemps, puis elle a repris. Il y a 26 ans qui se sont écoulés, où on a forcément changé chacun de notre côté, mais on n'a pas changé de manière très complémentaire, en fait. Et on est devenus des personnes qui, aujourd'hui, je pense, si elles se rencontraient pour la première fois, se rencontrerait probablement pas une deuxième fois.
Quand Christophe a raconté son histoire à Annika et Rizen, nous leur avons proposé de faire entendre la version de Leïla également. Nous voulions savoir ce qui s'était passé à Londres à l'époque, pourquoi ils ne s'étaient pas retrouvés. Annika a interrogé Leïla, elle lui a demandé de raconter en détail sa sortie de la ville, elle lui a demandé comment Christophe l'avait aidée à sortir, comment elle avait traversé via le tunnel sous l'aéroport. C'est là que Leïla a dit qu'elle n'était pas sortie de Sarajevo par le tunnel. Qu'un groupe d'une comédie musicale lui avait proposé de quitter la ville avec eux. Ils se rendaient à une compétition de l'Eurovision en Irlande. Elle avait dû courir sur le tarmac de l'aéroport. À l'époque, le tunnel n'avait pas encore été creusé. Elle avait risqué sa vie. Elle a raconté à Annika que si elle n'avait pas retrouvé Christophe tout de suite, à Londres, c'est parce qu'elle avait rencontré des gens sur la route et fait des détours. Et quand elle est enfin arrivée à Londres, elle a été confrontée à la paix. Elle a raconté à Annika comment elle regardait les immeubles londoniens et les imaginait être écrasés sous les bombes. C'était intenable, la paix. Leïla a parlé 2 heures au téléphone avec Annika, mais elle n'a pas voulu répondre devant un micro. Leïla ne veut plus raconter la guerre. Elle ne racontera pas. Il ne restera dans l'histoire que la version de Christophe. Cet épisode de Passage a été tourné et monté par Annika Erichsen, sous la responsabilité éditoriale de Maureen Wilson, qui était aussi à l'édition et à la coordination. Il a été réalisé par Charles de Cilia, qui a aussi composé la musique. Il a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Marion Girard est responsable de production. Mélissa Bounois, directrice des productions. Et le générique a été composé par November Ultra. Je suis Charlotte Pudlowski, et vous venez d'écouter Passage. Si l'histoire du siège de Sarajevo vous intéresse, je vous recommande le documentaire de Rémi Ourdan et Patrick Chauvel, Le Siège. Passage est une production Louis Média. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser des commentaires et des étoiles, et surtout, en parler autour de vous. À très vite.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.